Donc après cette première table ronde, un certain nombre de synthèses, quelles spécificités pour les sciences participatives dans les domaines de la culture ? Donc quatre personnes vont intervenir, Daniel Siré, Martha Severo et Vincent Puig, comme vous le voyez sur le programme. Donc je commence, je suis un peu désolée de commencer, mais... Alors, un exercice extrêmement difficile et j'espère que vous serez particulièrement indulgents, mes collègues, mes partenaires et puis l'ensemble du public qui est là. Diversité sémantique et de pratique, c'est la commande que j'ai eue. C'est pour essayer d'attraper un petit peu cette diversité au sein des recherches culturelles. Deux préalables, rapidement. Le premier, c'est que, je vous l'ai dit, je suis anthropologue et donc je connais bien ce qui est recherche action participative parce que c'est mon domaine, l'épistémologie, l'histoire de ma discipline qui est liée à ça. Et je connais bien aussi ce que j'appellerais le modèle citizen science, qui est le modèle environnement, vigie nature, qui est propre au muséum. Et donc, je vais essayer de vous donner à voir un petit peu la diversité, mais... Je connais moins les autres domaines et donc il va y avoir des grosses lacunes mais qui seront comblées par mes partenaires tout à l'heure. Alors, 5 points rapides, donc des diversités sémantiques et des épistémologies différenciées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en faisant une recension... Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'à cette communication est associé Émeric Luneau, qui est post-doctorant au muséum et qui travaille sur les convergences au sein des sciences participatives. Donc, une forte diversité sémantique. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais en regardant un petit peu les termes qui étaient utilisés pour parler des sciences participatives, évidemment sciences participatives, science-recherche collaborative, science-recherche contributive, recherche-action participative, recherche interventionnelle, community-based research, recherche communautaire, les arts communautaires, interactifs, interventionnistes, socialement engagés. Là, c'est grâce à Peter que j'ai l'ensemble de ces termes. Et puis, alors dans un domaine qui n'est pas celui qu'on étudie aujourd'hui, les médecins parlent d'épidémiologie populaire en parlant de sciences participatives avec les associations de malades. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de noms qui sont utilisés. Certains, comme Mucky Aclay, ont essayé de catégoriser avec des niveaux de participation. Donc, il y a niveau 1, 2, 3, 4. Pour lui, ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchisation, mais il y a différents niveaux. En fonction d'une contribution, les citoyens sont juste capteurs de données, où les citoyens contribuent à l'interprétation de données. Troisième niveau, les citoyens contribuent à la définition du problème et à la collecte de données. Et enfin, dernier niveau, la recherche est collaborative dans l'ensemble des phases de la recherche qui sont définition des problèmes, collecte de données, analyse. Alors, ce tableau est intéressant. Il en existe plein d'autres qui essayent de faire des catégories. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte et ce qui nous complexifie certainement la tâche, c'est que les sciences participatives, comme on l'a entendu dans cette table ronde, sont en évolution constante, évolution numérique, mais pas qu'évolution numérique, les designs de ces sciences participatives. Pour faire ce rapide panorama de cette diversité, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des ancrages historiques, alors que ces relations amateurs et disciplines scientifiques, elles sont là de longue date. Alors au muséum, on aime bien mettre, ce que je vous ai remis, l'instruction aux voyageurs, qui date donc de 1860, qui est une forme de science participative, où les voyageurs, on invitait les voyageurs à collecter, documenter des objets, mais pas seulement des objets. C'était aussi l'histoire naturelle au sens large, y compris l'histoire de l'homme. Donc, ce qu'il faut voir, c'est très rapide, mais qu'il y a pendant longtemps une porosité entre jusqu'à cette professionnalisation de la recherche, mais il y a Il y a eu les grands cabinets de curiosité, hein, les sociétés savantes, l'histoire des sociétés savantes nous montre qu'il y avait beaucoup de travaux qui étaient faits jusqu'à cette professionnalisation et cette séparation, et que ces personnes non professionnelles de la recherche scientifique participer à des relevés de terrain, des collectes d'échantillons, des identifications, des analyses d'archives et tout un tas de choses. Donc il y a une histoire de cette relation professionnelle qui n'était pas encore des professionnels jusqu'à participants aujourd'hui, qui est une histoire longue et qu'il faut prendre en compte. Et puis il y a différentes histoires, alors que j'ai essayé d'énumérer très rapidement. Hein. Cette histoire d'amateurat en écologie, c'est une histoire ancienne, hein, où les amateurs ont contribué et contribuent aux sciences écologiques en relevant un certain nombre de données, en ayant des connaissances en taxonomie aujourd'hui au muséum, juste pour vous donner cette image. Il y a certaines espèces qui n'ont plus de professionnels qui sont capables de les identifier, et ce ne sont que des amateurs qui sont capables aujourd'hui d'identifier en taxonomie. Le mouvement de la recherche-action, qui est un mouvement ancien en sciences humaines et sociales. La mobilisation collective de malades, qui est aussi une histoire, alors dans l'histoire des sciences médicales, hein, mais c'est une histoire particulière où des malades ont pris en compte et ont construit le participatif. Ce qui est de l'ordre des community-based research, c'est ces conflits entre États et populations autochtones où les populations autochtones ont souhaité se faire entendre et faire reconnaître leur savoir. Et puis, Gwendoline Lair, tout à l'heure, en a parlé, aussi tout cet aménagement urbain participatif. Donc, je ne connais pas très bien l'histoire, mais où il y a des grands mouvements depuis les années 70. J'espère que je dis pas trop de bêtises. Donc, une pluralité d'épistémologie, c'est une pluralité de cadres théoriques, hein, pour les sciences participatives, qui sont parfois productrices de tensions, de luttes entre tel et tel courant, de concurrence, certains étant accusés d'hégémonie par rapport à d'autres et de noyer les autres, qui relèvent de visions du monde assez différentes sur les savoirs, notamment la position, la place des savoirs, et qui relève aussi de contexte politique, on va dire, occidental, avec cette rationalité scientifique, et d'autres contextes où les savoirs locaux sont mis en avant. Et donc, à chaque fois, quand je vous ai parlé, je vous ai défini tout à l'heure, quoi, je vous ai pas défini, mais je vous ai énuméré recherche participative, science, citizen science, recherche contributive, etc. On a à chaque fois, derrière une communauté de référence, des prises de position méthodologiques, théoriques et axiologiques. Donc on voit bien que quand on parle recherche culturelle et sciences participatives, on parle de choses extrêmement variées et qui sont toutes dans le domaine de la recherche et dans le domaine de l'art, qui sont toutes ancrées sur des épistémologies très fortes avec des auteurs. Je vais essayer de vous en donner quelques éléments. Donc, dans le modèle citizen science, modèle plutôt de l'écologie, c'est un terme qui apparaît dans les années 90, notamment avec Alan Irving, avec un triple science, science pour les citoyens, science par les citoyens et savoir citoyen. Donc c'est une communauté relativement récente qui s'est construite. Richard Bonnet aussi désigne les programmes qui impliquent le public et renvoie à l'idée d'une science faite par les citoyens. On a une tentative de définition, donc je vais pas la lire en anglais, collection et l'analyse de données qui relatives au monde naturel, qui sont produites par des membres du public et qui sont des collaborations entre public et puis scientifiques. Ce modèle citizen science, parce que je ne pouvais pas reprendre sciences participatives qu'on emploie par ailleurs, c'est une approche aussi qui est quand même ancienne, même si le terme est apparu assez récemment. Les motivations, la curiosité, la volonté d'impact. qui a comme objectif de produire des connaissances, des indicateurs, et qui s'amplifie notamment avec tous les développements numériques et puis ces grandes bases de données dont on a besoin aujourd'hui dans les ministères. Trois promesses, promesse d'éducation à la science derrière ce modèle Citizen Science, promesse de démocratisation de la science et promesse d'une production d'une nouvelle science, donc entre éducation, recherche et les rapports science-société. Ce qu'il faut voir avec ce modèle Citizen Science qui a pu apparaître et peut peut-être encore apparaître pour certains comme hégémonique, c'est aussi un modèle qui évolue beaucoup, comme tous les autres modèles, mais celui-ci évolue. Et donc, on voit bien qu'on a des projets qui sont de plus en plus collaboratifs, où la question de recherche est définie par les chercheurs, mais elle peut aussi, les publics peuvent intervenir sur les protocoles. Et il peut y avoir des projets co-créés par les publics qui participent à l'ensemble des étapes de la recherche. Aujourd'hui, à côté de ce lien avec le public qui se renforce, il y a aussi le lien aux questions locales et des développements sont en cours, je vais vite pour ne pas prendre trop de temps, pour proposer des outils qui permettraient, des outils numériques qui permettraient aujourd'hui des analyses de données par les participants eux-mêmes et donc ils pourraient se saisir de ces éléments. Recherche action participative, on est sur une épistémologie totalement différente avec Kurt Levin, Chambers, Paolo Ferré, sur des recherches avec les communautés. Les motivations, c'est vraiment la reconnaissance de ces communautés, améliorer les conditions d'existence. Les objectifs, évidemment, on est dans la production de connaissances, mais aussi l'empowerment, qui est la capacité des populations à se saisir des projets. Et ça a beaucoup, ça a pris une ampleur considérable avec CDB, la Convention sur la diversité biologique, qui reconnaît les populations autochtones, et aujourd'hui l'IPBES, qui reconnaît aussi l'impact des savoirs autochtones dans les connaissances sur la biodiversité. Cette recherche-action participative, donc, elle émerge de ces conflits entre savoirs scientifiques et autres systèmes de savoir, donc de cette reconnaissance. Et cette volonté de vraiment collaborer entre scientifiques et non scientifiques. Et donc, la base, c'est véritablement de construire une recherche par une question posée par la communauté dans le but de résoudre à la fois des éléments scientifiques, mais aussi des éléments sociaux. Et donc, les chercheurs se mobilisent autour d'un problème posé par le public. Et certains de mes collègues vont jusqu'à penser aujourd'hui une autonomisation complète des communautés en leur donnant la capacité de mobiliser les outils participatifs pour ne plus avoir de chercheurs pour la production de connaissances. Alors, recherche en art participative. J'ai repris quelques éléments du texte qui sera dans le rapport de Peter Sinclair sur le fait qu'on est encore dans un cadre différent, et Peter l'a beaucoup dit à chaque fois en disant « oui, mais en art, c'est différent, la recherche en art, c'est différent ». C'est vrai que le public, il est de fait présent dans la recherche en art, hein, puisque la validation du public est liée, la validation des œuvres est liée à la présence du public. Qu'on a, ce qui m'a paru intéressant dans son texte, c'est qu'aussi, il l'a rappelé, c'est plus tant l'esthétique, l'artefact qui est important que ce processus politisé, donc référence à une auteure, Claire Bishop, que le financement public aussi permet de donner la priorité aux procédés plutôt qu'aux artefacts. J'espère que je ne trahis pas la pensée de Peter. Et que le public est un véritable co-auteur du processus. Donc, juste pour dire que je vous présente comme ça trois aspects très différents de ce qui peut être regroupé sur sciences participatives, mais qu'évidemment, on a des divergences théoriques, on a des divergences de contexte scientifique, de divergences politiques aussi, de contexte politique, mais qui nous semblent, et j'espère que mes collègues, mes partenaires sont d'accord, que ces différences-là ne doivent pas vous faire oublier non plus qu'on a des points communs, qu'on a des questions communes. Points communs autour d'une recherche participative qui est quand même différente d'une recherche académique classique, différente pour plein de raisons, parce qu'il faut avoir des liens avec le public, parce qu'il y a ces outils numériques. Une recherche qui assume, quelle qu'elle soit, une implication sociale forte. Ces questions qui sont des questions importantes d'horizontalisation, c'est-à-dire cette relation entre chercheurs et participants, mais qui ne veut pas dire forcément symétrisation, c'est-à-dire que les rôles des uns ne sont pas forcément les rôles des autres. En recherche-action participative, que je reconnais mieux, le chercheur, on lui donne quand même un rôle de protocole, de rigueur qui est spécifique, et avec cette dimension scientifique qui est incontournable. Ces rapprochements, ils nous semblent utiles. Alors peut-être avec cette définition inclusive du rapport Houllier, mais ça, c'est un point de vue plus peut-être muséum. Le développement des analyses réflexives qui sont vraiment extrêmement importantes. Ces relations, elles sont construites dans le domaine de l'environnement parce qu'il y a tout un tas d'institutions qui ont entrepris de faire parler ensemble à la fois plutôt recherche-action participative et puis citizen science, et que Participarc, c'est aujourd'hui, il me semble, le seul lieu pour l'instant de discussion entre ces différentes épistémologies et ces différents univers qui se sont rencontrés. Et donc peut-être que l'idée, c'est bien de fédérer, mais tout en respectant ces différences, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'uniformiser. Je vous remercie et donc je laisse la parole à Daniel Siré.
Bien, bonjour à tous, Daniel Siré, je suis architecte, je suis aussi chercheur au ministère de la Culture et je dirige le laboratoire qu'a présenté Gwendoline Lair tout à l'heure, le laboratoire AAU qui est entre Nantes et Grenoble. Alors on m'a demandé de parler, de faire une synthèse quasi impossible également pour moi sur le thème de la recherche participative en culture à la croisée, science, création et société. Et il m'a semblé qu'on pouvait faire un petit peu diversion en présentant une image qui illustre peut-être un petit peu cette question de la collaboration et de la participation des publics. Cette image, c'est une image très récente d'une installation de Stéphane Vigny dans le cadre du voyage à Nantes en 2019, donc je viens de Nantes, sur la place Royale à Nantes, avec des statues qui ont quitté leur position majestueuse, mais un peu figée dans la fontaine de la place Royale. Ces statues qui se sont déversées en quelque sorte de la fontaine incarnent une foule anonyme, nombreuse, très diverse, qui rayonne sur la place. On peut y voir une allégorie de la participation, la science magistrale incarnée par la fontaine au centre, entourée de la foule des citoyens qui est rendue visible ici dans des formes hybrides entre la statuaire classique et, il faut bien dire aussi, une bonne dose de kitsch. L'ensemble définit provisoirement une nouvelle ambiance urbaine où les invisibles et les visibles occupent ensemble l'espace. Et c'est sur cette image que je vais donc tenter de vous parler du croisement science, création, société pour ces recherches participatives en culture. Alors avant de parler de participation, on peut déjà dire que les recherches dans les mondes de la culture s'inscrivent toujours ou souvent dans des dynamiques qui croisent des enjeux scientifiques de création et sociétaux. Alors, enjeux scientifiques sans aucune ambiguïté, les recherches dans les mondes de la culture s'organisent dans des contextes scientifiques au sein de disciplines qu'on peut qualifier d'académiques. On a déjà beaucoup parlé, donc d'anthropologie, sociologie, histoire, archéologie, ethnologie, sociolinguistique, physique et chimie des matériaux pour le patrimoine, ou sciences de l'information, ou dans des domaines scientifiques plus spécifiques au monde de la culture, comme l'architecture, les sciences du design, les sciences du patrimoine, la musicologie, les sciences de l'art, etc. En termes d'enjeux sociétaux, je crois qu'il n'y a pas non plus beaucoup de mystère là-dessus. Effectivement, les mondes de la culture sont profondément ancrés dans les sociétés, dont ils constituent une expression essentielle. Ainsi, les recherches dans les mondes de la culture ne peuvent que rarement être déconnectées du ou des contextes sociétaux, voire politiques, on en a parlé un peu, dans lesquels elles émergent. La culture soulève des enjeux en termes d'éducation, de mémoire collective, de patrimoine, d'environnement, de géopolitique parfois. On pense aux questions liées au patrimoine matériel et immatériel, qui renvoient à de forts enjeux sociaux, mais aussi économiques, touristiques par exemple. aux questions mémorielles qui sont au cœur de débats politiques ouvrant sur les problématiques postcoloniales ou d'autres problématiques. On pense aussi aux questions architecturales et urbaines. Je suis architecte et je viens d'un laboratoire d'architecture qui impacte directement les environnements construits dans lesquels les sociétés s'organisent. La culture est ainsi un enjeu politique à tous les niveaux, aussi bien local pour la constitution même des collectivités, des groupes humains qui ne vivent pas sans culture, qu'au niveau national à travers l'identité des nations et international dans le concert de ces nations. Et puis, troisième terme de cette équation, la création. Alors, les recherches dans les mondes de la culture touchent directement ou indirectement aux questions de création. Directement, la création peut être un objet de la recherche, étudier la création ou les processus créatifs, un moyen de la recherche, créer pour connaître, par exemple dans les sciences du design, qui ont beaucoup mis en avant ces démarches créatives, ou bien encore la création peut être une finalité de la recherche, la création comme production de connaissances. On pourrait parler ici de recherche sur la création, lorsque la création est un objet de la recherche, de recherche création, lorsque la recherche s'effectue à l'aide d'approches créatives, ou de création réflexive, lorsque la recherche est un acte de création personnelle d'un artiste. Indirectement, la création s'impose également dans les recherches culturelles à travers les artefacts du passé que nous avons en héritage et dont nous devons assurer la conservation et l'interprétation toujours renouvelée. Ce sont, on l'a déjà dit, les patrimoines matériels et immatériels de toutes sortes, les vestiges du passé révélés par l'archéologie, les archives, etc. Ces artefacts sont au centre de nombreuses recherches culturelles qui mobilisent les conservateurs, les chercheurs, les archivistes et d'autres acteurs. Alors, dans ce contexte, la participation des citoyens non-chercheurs aux recherches culturelles n'est pas seulement guidée par l'envie de faire science, de contribuer à l'évolution des connaissances ou de valoriser sa propre compétence scientifique, elle est aussi engagée dans une perspective qui dépasse les enjeux de production de connaissances et ancrée dans des contextes sociaux et géographiques situés. Donc, penser les pratiques hybrides de recherche dans le croisement entre science, création et société, c'est tout le défi de ce réseau Participart, et au croisement de ces enjeux, je pense qu'on pourrait mettre en avant ces trois points qui sont l'engagement des participants, l'appel à la créativité et puis le brouillage des frontières. Alors, premier point, l'engagement des participants. Comme on l'a dit, le positionnement des recherches culturelles ne peut pas être complètement distant ou dissocié des enjeux sociétaux et des contextes politiques dans lesquels elles sont menées, ces recherches. L'engagement des citoyens dans ces recherches est donc souvent un engagement social, voire militant. Participer aux recherches culturelles serait alors en quelque sorte une manière, un moyen d'agir sur la société. Au niveau local, comme faire advenir la reconnaissance d'une histoire révélée par les sites et matériels archéologiques, ou par le regard particulier qui est porté à travers l'inventaire, ou à la participation des projets d'aménagement de la ville où on habite. Au niveau national, par la reconnaissance de communautés en lien avec des enjeux mémoriels, CF les recherches participatives sur les testaments de poilus ou autres corpus archivistiques. Ou au niveau individuel, aussi lorsque les questions patrimoniales sont en jeu, par exemple les recherches en histoire locale, en généalogie, et on a parlé tout à l'heure des recherches participatives sur les dossiers de naturalisation à la BNF. Alors, deuxième point qui me paraît important dans ces recherches en culture participative, c'est l'appel à la créativité des participants, dont on attend qu'ils viennent enrichir de leurs connaissances et expériences les champs de savoir dévolus traditionnellement aux experts. Les citoyens deviennent eux-mêmes créateurs. On a vu différents exemples. On peut citer des questions liées au co-design, où il s'agit de faire participer les citoyens à la conception d'environnement, de design d'environnement, mais aussi d'objets ou de services, le design de services ou le design même de politique aujourd'hui, qui les concernent directement. La stimulation de la créativité des citoyens est un enjeu de ces recherches. Dans le domaine de l'architecture et de l'aménagement urbain, donc dans mon domaine, il existe de nombreuses recherches qui visent à construire et évaluer des dispositifs de participation et de créativité des citoyens, en utilisant par exemple les technologies de réalité virtuelle pour faciliter l'appropriation des projets par les non-experts. Dans les domaines des arts, on en a parlé avec les exemples cités par Peter, les citoyens sont souvent sollicités comme des contributeurs directs des œuvres qui n'existent que parce que précisément des citoyens ou des personnes en font l'expérience. Dans ce cadre, le citoyen n'est pas un participant ou il n'est plus un participant, il est un acteur essentiel de la création. Alors, troisième point, le brouillage des frontières entre citoyens, chercheurs et créateurs, entre société et monde scientifique, entre savoir et expertise, dites profanes et académiques. Alors, on a parlé d'empowerment, et Frédéric a cité ce terme, de citoyen à travers la recherche, c'est-à-dire une augmentation de sa capacité d'agir. On pourrait aussi parler, en quelque sorte, du dépowerment des experts et des savants qui ne sont plus seuls maîtres à bord de la science. Un brouillage des frontières entre citoyens, chercheur, créateur et artiste, militant et activiste, s'installe donc dans ses recherches culturelles participatives. Un chercheur est aussi un citoyen qui peut être engagé, un citoyen est aussi un créateur qui peut être un artiste, un créateur est aussi un chercheur, etc. Alors, comme l'indique très bien le rapport final rédigé par Anna et par l'ensemble du groupe, je vais citer une partie de ce rapport ici, l'émergence des sciences participatives dans le domaine culturel résulte d'une rencontre inéluctable, et je pense que ce terme est très juste, entre des chercheurs et des citoyens en quête de savoir et de participation au processus de connaissance mis en capacité par des outils technologiques de plus en plus répandus et simples d'utilisation. Elle est parfois le fait de citoyens susceptibles de prendre l'initiative de projets de recherche et de poser eux-mêmes des questions de recherche. Le citoyen participant est considéré comme un nouveau partenaire de la recherche. Il pousse le chercheur à s'interroger sur tous les aspects de sa démarche, ses questions de recherche, ses méthodologies, la qualité de sa collecte et la façon de restituer les résultats. Il interroge aussi le chercheur sur son rôle même dans le contexte dans lequel il intervient et l'incite à redéfinir sa place et sa fonction. Fin de citation du rapport. Alors en conclusion, puisque c'était ça la question posée, quelle spécificité des recherches culturelles participatives ? Eh bien peut-être... La spécificité, pour moi, serait celle de mettre le citoyen non pas en situation d'assistant du chercheur, mais de véritable partenaire de la recherche dans une perspective sociale ou créative qui concerne tout autant le citoyen et le chercheur en tant que tous deux membres d'une même communauté humaine et culturelle. Merci.
Bonjour, alors je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir donné la possibilité de les présenter aujourd'hui et ces sujets alors, qui sont les participants des recherches culturelles participatives qui n'est pas du tout évident. Alors, mais il est très stimulant. Alors il y a trois raisons qui rendent les sujets très difficiles. La première, qui est les phénomènes est très récent et comme toujours, quand on est très proche d'un phénomène, c'est difficile d'y voir clair. La deuxième, et que j'ai les périmètres des recherches culturelles participatives est difficile à définir, comme on a vu jusqu'à tout à l'heure dans les différentes interventions. Et la troisième, c'est que malheureusement, je n'ai pas à disposition des enquêtes statistiques ou d'autres types de recherches sur lesquelles je peux m'appuyer. Alors, je vais m'appuyer, alors je chercherai à porter, justement à faire une synthèse des différents points de vue qui ont émergé pendant ces 18 mois. Je m'appuierai en particulier sur deux rencontres qu'on a eues sur ces questions des participants. Un en 2018, dans lesquelles Anna, que je ne vois pas, a restitué, ok, elle est cachée là derrière, elle a restitué une enquête qu'elle a réalisée auprès des participants au projet. Voilà, ça signifie, ça porte sur les participants au projet participatif d'un participarc. Et la deuxième rencontre était en 2019, dans laquelle on a écouté des représentants, on peut dire des participants, les CTHS et la Fondation du Patrimoine, et certains représentants, disons, certains participants dans des projets spécifiques, comme les testaments des poilus, l'inventaire en Bretagne. Alors, en effet, alors ça c'est un peu... les résultats dans un diapositive de l'enquête d'Anna, on a plein de domaines différents, plein d'acteurs différents, les musées, les archives, voilà, vous les avez déjà écoutés. Et aussi, alors, je chercherai en effet, ce que je ferai, c'est que je vais vous proposer 5 dichotomies, voilà, 5 oppositions terminologiques sur lesquelles on a tourné, notre discussion est revenue à plusieurs reprises. Entre lesquelles je ne vais pas spécialement à choisir, mais voilà, je vais vous les proposer comme ça. Parce qu'en effet, si je dois trouver moi-même une caractéristique des recherches culturelles participatives, c'est la même, on ne s'est pas consulté, mais c'est exactement la même de Frédéric, c'est la diversité. Voilà, la diversité qui doit être valorisée et pas réduite et simplifiée. Alors, la première dichotomie est public et participant. Au début, j'étais sollicitée pour parler des publics. J'ai dit non, je ne suis pas trop à l'aise sur ces termes. C'est mieux parler des participants. Pourquoi ? Alors, parce que c'est plus inclusif, parce que justement ça permet de poser l'accent sur les interactions entre les différents acteurs. À un certain moment dans les rapports, il y a un glissement, vous verrez, on parle aussi des partenaires, participants comme partenaires, je pense que c'est un point de vue intéressant. Voilà, pour ça ne signifie pas qu'on est toujours dans une organisation symétrique horizontale, mais que tous les rôles doivent être pris en compte. Alors, une deuxième approche possible à la question des participants, c'est justement reprendre la définition du rapport Houllier. Voilà, parce que c'est l'outil qu'on a à disposition. Et à l'heure qui a été cité tout à l'heure par Frédéric, on a des recherches participatives. Quand on a un contexte de recherche, alors on a des scientifiques aux chercheurs, voilà. On a les deux termes également qui reviennent de manière alternative, et on a des acteurs non scientifiques professionnels. Ça, c'est la terminologie qui est utilisée dans les rapports Houllier. Évidemment, alors comment... c'est pas toujours simple de définir qui est un chercheur. Alors, dans les rapports, vous verrez, il y a, ça a été aussi cité tout à l'heure, il y a cette idée que pour avoir des sciences participatives, il doit y avoir toujours un acteur, voilà, un participant qui est clairement lié à une institution de recherche académique. Alors, ça, c'est toujours un type de participant qu'on devrait avoir dans des recherches participatives aussi en culture. C'est à discuter, hein, je vous porte différents points de vue. Alors, qu'est-ce que ça change quand on est en culture, ou au moins dans les projets qui étaient représentés dans Participark, c'est qu'on avait souvent, presque toujours, des institutions culturelles. Alors j'ai mis juste institutions, et ça, ça fait réémerger une opposition classique dont Frédéric a parlé tout à l'heure, l'opposition institution-amateur. Alors là, je l'ai mis dans la même dichotomie, c'est pas tout, voilà, j'ai beaucoup hésité à s'y distinguer. De toute façon, on a des professionnels qui sont identifiés comme tels parce qu'ils sont liés à une institution, et on a des personnes qui sont hors institution ou qui peuvent être professionnels, mais dans les moments dans lesquels il s'agit dans les projets, ne sont pas identifiés comme professionnels. Et alors, on a ce terme qui... Voilà, je vous propose pour votre discussion des non-chercheurs professionnels, des professionnels qui interviennent dans les projets participatifs, qui peut-être a une compétence qui n'est pas académique. Voilà. Ça peut être une spécificité des recherches participatives en culture, par exemple. Une quatrième dichotomie, voilà, qui est revenue aujourd'hui. Alors là, la sémiologie, ça ne va pas du tout m'aider, parce qu'en effet, j'ai repris la même représentation, mais les catégories, ça ne correspond pas du tout. Voilà. On a vu qu'il y a ces rapports entre experts et non-experts. On a parlé des différents niveaux de participation, et en effet, la question a été interprétée par certaines personnes autour de la table comme niveau d'expertise. La question, sûrement, il faut pas, voilà, c'est qui est, je pense, sur quel tout le monde est d'accord que la correspondance, voilà. C'est pas qu'il y ait les professionnels experts et l'autre n'est pas expert. On a parlé d'habitants, par exemple, d'informateurs. Et il ne faut pas oublier que dans les premières applications d'IRWIN, l'idée, c'était qu'on a une population locale qui est plus experte et qui peut porter une science locale qui va enrichir avec la science. Une dernière dichotomie qui m'a semblé intéressant de porter à votre attention, c'est qu'on peut, quand on construit un projet, alors on peut s'adresser à une communauté, dans le sens qu'on a une cible spécifique, si je dois prendre un lexique plus communicationnel, ça peut être les généalogistes, voilà, les cas typiques, ça peut être un public spécifique. Tout à l'heure, Virginie parlait des adolescents enfants. Mais après, on peut avoir d'autres positionnements. Voilà, on a eu beaucoup d'échanges sur ça. On peut concevoir que les sciences participatives, c'est pour les citoyens, qu'on doit faire pas des distinctions. Évidemment, ça c'est très lié à la question de l'expertise. Quelle expertise on demande, quelle tâche on demande. Voilà. Pour moi, c'est important. Ce qu'on peut retenir de ces 18 mois d'échanges, c'est qu'il ne faut vraiment pas choisir. Ces catégories, ces chevauches, et c'est justement les chevauchements entre les catégories qui est enrichissant, c'est qui permet de garder la diversité, qui permet de garder, et voilà, ce qui Daniel disait tout à l'heure, voilà, c'était les brouillages des frontières. Et pourquoi ça? Je pense qu'il est sous-entendu, il y a une ambiguïté entre connaissance scientifique qui est propre des sciences participatives, les premiers cadres qu'a décrit Frédéric. Connaissance et savoir, en effet, ces catégories, pour certains acteurs qui portent des projets participatifs, c'est chevauche. Pour d'autres, ça ne chevauche pas. Et cette ambiguïté entre savoir et connaissance, c'est ce qui permet, dans des projets de recherche en culture, de garder de l'espace pour faire correspondre l'enjeu scientifique, avoir du rigueur scientifique et l'enjeu sociétal, d'empowerment aux plus militants. Voilà. L'effet de ne pas définir clairement si on parle des savoirs ou si on parle des connaissances, ça permet d'avoir des points de vue différents, des différentes interprétations du dispositif, et ça, à mon avis, c'est faut pas trancher. Voilà. J'ai pensé important souligner un autre point. On était alors dans la rencontre sous les participants, on a fait une infographie, on pourrait dire. En effet, il y a eu un accord plutôt global sur le fait que deux catégories sont exclues du cadre des sciences participatives culturelles. Une catégorie sont les projets qu'en Wikipédia dans lesquels alors moi-même, je n'étais pas d'accord, mais tout le monde était d'accord, dans lesquels l'organisation est complètement paritaire, il n'y a vraiment pas de production de nouvelles connaissances, au moins qu'on m'ait présenté les projets. Et l'autre, beaucoup plus important, sous lequel je pense que voilà, Karen n'est pas là, mais sûrement aurait voulu parler de ça, c'est l'aspect que toutes les activités qui sont appelées participatives, mais qui ont des fins commerciales, ne rentrent pas dans ce cadre, et il ne faut pas l'oublier. J'ai encore 2 minutes. Oui, non. Oui. Alors, un dernier aspect sur lequel je voulais porter l'attention sur la question des participants, c'est que même quand on est dans un dispositif clair dans lequel il y a un accord sur ce qui sont les sciences participatives, je ne sais pas lesquelles, mais après, il y a une autre couche de complexité, c'est l'effet qu'en effet les participants. Ça peut pas, c'est pas toujours, ça correspond pas à notre idée. Si moi je porte un projet, voilà, j'ai fait les testaments des poilus, je prends les projets, d'autres projets qui ont été mentionnés. En effet, ce qu'on tend à avoir, c'est un participant imaginé. Voilà. On souhaitait. Quand on construit un projet, on a une idée plutôt précise des personnes, des profils attendus. Par exemple, idéalement, des amateurs éclairés ou les contraires, ou des citoyens complètement naïfs. On ne demande pas trop d'expertise, ça dépend. Voilà. Et on a aussi une projection de la motivation des participants. On tend à voir ça. Voilà. On construit, disait Yves, un cadre, en effet. Un cadre. Ce qui se passe, c'est que ces cadres, ça correspond rarement aux participants réels que j'ai distingués en deux parties, les connus et les inconnus. Alors, les connus, évidemment, sont les participants qu'on peut rencontrer ou qui se manifestent dans des rencontres aussi dans des initiatives extérieures, si c'est une plateforme numérique. Et eux, ils arrivent avec leur histoire de vie, ils arrivent avec leur motivation qui peut correspondre pas du tout au dispositif qu'on a mis en place. Par exemple, voilà, on a prévu un dispositif pour les citoyens. Alors, tout à l'heure, il va utiliser un terme profane. Et en effet, il arrive, les citoyens militants qui ont une idée très précise de comment ils veulent contourner le dispositif. Et après, on a, avec les numériques, alors, les participants inconnus, des participants qui est sous anonyme, pseudonyme, sur lesquels on a toutes des problématiques. Aujourd'hui, on n'a pas encore abordé cette question très rapidement, des questions juridiques, éthiques, pour lesquelles les dispositifs qui sont déjà en place, c'est très difficile de faire des enquêtes. Il faut construire des dispositifs prenant en compte cet élément. Et enfin, on a les participants involontaires. Alors, je les appelle comme ça, des personnes qui passent par là, ils trouvent la plateforme, ils travaillent, mais en effet, ils ne participent pas du tout au bien commun, je ne sais pas, ou ce qu'ils nous envisagent en fonction. Pour conclure en deux mots, je pense que Voilà, je vous lance ça à la discussion. Mon avis personnel, c'est vraiment que ces diversités des points de vue, cette tension, ça permet de construire des espaces frontières dans lesquels les objectifs scientifiques peuvent vivre ensemble aux objectifs sociaux sans nécessairement trouver un accord. Mais voilà, ça c'est juste une idée possible. Merci.
Oui, je surveille.
Bonjour à tous. Merci. Oui, bah effectivement, passer en dernier, c'est aussi savoir slalomer entre les différentes contributions de mes collègues. Je vais essayer de rendre compte principalement du groupe qui s'est intéressé aux plateformes, aux questions d'infrastructures, aux questions de données surtout. Pourquoi ? Parce qu'il me semble important de ne pas considérer, ça a été un débat pour tout vous dire, mais de ne pas forcément considérer la technologie comme totalement neutre. Le design d'un dispositif n'a rien de neutre, y compris lorsqu'il est conçu avec les participants eux-mêmes. Et donc, je vais partir sur un présupposé, si vous voulez, qu'il faut s'intéresser dans les outils et la conception des outils et des données à ce que un design de système participatif va induire comme production de savoir. Bon, c'est un peu un présupposé épistémologique aussi, hein, qui consiste à dire que les outils, et particulièrement à l'heure du numérique, ont une influence considérable sur la production du savoir. Les données de la capacitation, on a beaucoup parlé de l'empowerment, donc je préfère le terme capacitation en référence à Amartya Sen, et au pouvoir d'agir. Pourquoi ? Parce que ce pouvoir d'agir qui a été dans l'enjeu de beaucoup de nos débats pendant cette année, ce pouvoir d'agir, il est pour moi et pour les travaux qu'on mène notamment à l'Institut de Recherche et d'Innovation, très lié à la question du savoir. Et une économie du savoir doit être facilitée, doit s'inscrire aussi dans le contexte des sciences participatives. Cette capacitation, elle a donc pour nous un enjeu politique et économique. La question de la rémunération, ou en tout cas de comment fait-on pour participer à ces projets, d'un point de vue strictement économique, est importante. Et pour bien l'inscrire, cette question économique, il faut se placer dans une situation où, du fait de l'automatisation, nous avons de plus en plus de robots avec lesquels il faut apprendre à travailler. Beaucoup d'emplois aussi sont menacés par cette automatisation généralisée. Donc on entre clairement dans une mutation de la société où tous les gens qui participent à ces projets, de manière volontaire, il faudra à un moment ou un autre poser la question de leur rémunération. Certains y répondent par un revenu universel, d'autres, par exemple, avec le revenu de contribution écologique à Grande-Synthe ou avec le revenu contributif que nous proposons sur le territoire de pleine commune, pensent qu'il faut garder la liberté d'action, la liberté totale de s'investir dans ces projets, mais il faut bien évidemment un jour poser la question de la rémunération de cette participation par la société globalement. Alors je rends également compte dans cette synthèse des travaux qui ont été réalisés avec mon collègue Victor Drouin donc sur les questions épistémologiques. Donc je vais passer rapidement parce que Frédéric a déjà bien balayé la problématique, hein, donc une étude qui a fait un petit peu l'historique de finalement comment est-ce qu'aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation aussi de crise, de remise en question de la démocratie, hein, notamment la démocratie représentative, et qu'à l'inverse, finalement, avec la démocratie participative, on a cette illusion que finalement chacun pourrait être acteur de la démocratie. Et avec les plateformes, alors, on est dans une forme de gouvernementalité qui fait que finalement, on arrive à une forme de dilution du politique dans un individualisme démocratique qui est renforcé par les plateformes, ce que Antoinette Rouvroy a appelé la gouvernementalité algorithmique. Alors ces travaux ont été également menés dans le champ culturel avec on a bénéficié aussi des travaux qui avaient été menés dans le champ muséologique dans le cadre du séminaire muséologique que nous organisons chaque année avec l'aide du ministère de la Culture, notamment en insistant sur toutes les initiatives qui ont été très pionnières dans le champ des musées, notamment la nouvelle muséologie, les écomusées. Aujourd'hui des mouvements très intéressants où on voit finalement éclore des projets de recherche dans le champ des musées à partir d'une situation économique, par exemple la repéanisation ou encore les communautés qui se forment dans les friches, les enjeux des ZAD bien sûr sont pas du tout étrangers à tous ces travaux où finalement c'est le terrain politique très souvent très politisé hein, qui va être à l'origine d'une recherche et d'un partage de savoir. Alors Marie-Line Laplace a commencé en faisant allusion au grand débat. J'étais assez content qu'elle reprenne cette idée. Ça a été aussi une discussion qu'on a eue dans le réseau. Parce que quand on dit design de système participatif, vous avez là le site du vrai débat, vous savez qu'il y a eu le grand débat et le vrai débat. Et lorsqu'on regarde de manière très précise, d'un point de vue design, la manière dont ces sites sont faits, dont la démocratie finalement est comment la démocratie est produite par ces sites, on voit que, par exemple, un parti pris a été de séparer les pour et les contre par rapport à des arguments qui sont donnés dans le vrai débat, et que ça induit forcément une difficulté à produire du savoir commun, parce que à quel moment est-ce que les d'accord et les pas d'accord vont finalement pouvoir dialoguer. On l'a bien vu, c'est un des problèmes du mouvement des Gilets jaunes, d'arriver à produire du commun. Hein. Là encore, la capacitation, pour nous, c'est la production d'un commun, et pour nous, le commun principal, c'est le savoir. Produire ce savoir est très, très lié à la manière dont on design ces systèmes, y compris lorsque l'humain est mis au service de la démocratie, je puis dire, hein, puisque vous avez là le site de la grande annotation qui a été un gros succès, puisqu'il y a eu des milliers de désambiguisations des propositions du grand débat qui ont été proposées, mais on voit bien que là c'est la démocratie du clic qui est mis au service de la performance des algorithmes. Alors vous voyez, je fais un peu un grand écart entre du très libre dans les contributions jusqu'à du très dirigé ou du très équipé, mais ça a été bien l'enjeu de tout le travail qu'on a fait. Alors cette fois avec Lisa Chupin, donc qui travaillait sur les outils et données de la recherche participative, dans un travail qui s'est appuyé bien sûr sur des expériences du champ culturel qui ont été remarquables d'un point de vue participation, donc les testaments de Poilu notamment, mais aussi les herbonautes, donc sur lesquels elle a pas mal travaillé à étudier les interactions sociales, les modalités de contribution sur ces sites, jusqu'à analyser également des exemples extérieurs à la France. Bien sûr, hein, il est important d'avoir en tête que les Américains sont très certainement ceux qui ont eu les premières plateformes participatives les plus équipées, parfois trop équipées ou trop contraignantes. Hein. Ici, vous avez un site d'annotation précisément d'herbier qui est très 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 formaté, très normalisé, mais il faut avoir en tête qu'on peut avoir ce souhait hein, de rentrer dans des protocoles très très formalisés, mais aussi garder en tête, et ça Peter, plusieurs d'entre mes collègues ont souligné cette question qui se pose dans le champ culturel, d'une grande diversité de données qui sont parfois absolument pas inscrites dans des systèmes numériques. On est dans du workshop, on démarre avec un échange d'idées, on collecte de la donnée très informelle, et le travail de recherche va être justement de petit à petit, et non pas a priori, constituer les bonnes catégories, discuter les bons indicateurs, et c'est là que finalement les systèmes de recherche participative doivent se montrer assez souples pour permettre aux contributeurs, j'emploie le mot contributeur, vous avez remarqué, je suis plutôt du côté de la recherche contributive aussi, parce que à notre sens, ce qui est intéressant, c'est que les participants contribuent à un bien commun, hein, ils contribuent, et que leur contribution soit d'ailleurs reconnue à ce bien commun. C'est pour ça qu'on reste attaché à ce vocabulaire de la recherche contributive. Ça a été un petit débat sémantique, et comme Frédéric l'a fait remarquer, on n'a pas voulu trop insister sur ce sujet dans le groupe. Ça nous aurait amené des débats sans fin, mais c'est important que les mots ont toujours un sens et finalement ils sont intéressants pour cela. Donc là on est sur ce que Lisa Chupin appelait des données myriadisées, hein, des données extrêmement diversifiées qui finalement renforcent la nécessité, comme John Dewey l'avait très bien montré, de constituer un public, hein, et de réaliser une enquête sur le terrain. De manière à d'abord bien cerner les contributions, les expressions de savoir qui veulent être produits dans ces groupes. Alors il y a quelques sites qu'on a analysés également dans l'étude de Lisa, hein, comme le site SiteSci, qui est un site encore américain, qui commence à penser la question que Guillaume a soulevée, hein, qui est la question de la modularité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, quelqu'un qui souhaite lancer un site de sciences participatives et qui souhaite peut-être, il est d'ailleurs citoyen ou un groupe de citoyens, pas forcément un scientifique, comment est-ce qu'il pourrait trouver une sorte de boîte à outils, des éléments modulaires qui lui permettent de commencer à constituer un prototype de site participatif, quitte ensuite à, bien sûr, préciser, mieux spécifier sa demande et éventuellement s'adresser à des plateformes qui ont pour métier de faire ce travail. Je crois que c'est un petit peu l'esprit qu'il y a derrière 65 millions d'observateurs avec qui donc on a beaucoup échangé, sachant que dans la plateforme 65 millions d'observateurs, il y a aussi ce souci de l'humain, c'est-à-dire ce souci d'accompagner, effectivement d'avoir cette modularité, de pouvoir apporter des outils modulaires, mais aussi de pouvoir accompagner par l'expérience, de manière humaine, les porteurs de projets. Alors, on rêve, bien sûr, dans le domaine de la data, d'avoir le modèle Wikipédia pour tous les projets, pas forcément pour tous, mais en tout cas, c'est un modèle qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que le modèle Wikipédia trace, et donc là, j'insiste sur la question de la traçabilité, trace toutes les contributions, et il est toujours très important dans les projets de sciences participatives de ne pas oublier d'où vient l'information, et donc, une traçabilité, c'est un élément qui parfois est négligé dans les projets de sciences participatives. Dans le champ culturel, c'est particulièrement important, hein, de pouvoir remonter aux sources, de savoir qui a contribué à quoi, parfois avec des blocages, comme vous avez là ici à l'écran, sur la fameuse fiche Benalla, qui finalement se finit par se figer par impossibilité de ce qu'on appelle une guerre d'édition sur la page. Vous avez des sites très intéressants comme Controverscience qui ont aussi placer la controverse scientifique au cœur de la recherche et au cœur de la participation des contributeurs. Là, c'est aussi un protocole très bien établi qui consiste à poser une question scientifique et à l'argumenter en allant chercher des sources, des articles, et chaque citoyen peut donc participer à une controverse scientifique. C'est un site initié par plusieurs chercheurs de la région de Lyon, notamment des biologistes, des chimistes. Et c'est très, très intéressant à analyser aussi dans notre contexte. Alors, je vais un petit peu plus vite. Je pose une question qui a été soulevée avec Guillaume dans le groupe 5, qui est la question d'un format adapté à l'interprétation des données. Nous avons aujourd'hui des formats très génériques, donc qui héritent beaucoup de SGML, XML, donc qui ensuite sont des formats finalement de description, hein, des formats de description qui sont pas, qui quelquefois ont des zones de commentaires, mais qui ne sont pas forcément tellement utilisées. Nous avons des formats du web sémantique qui ont été très très importants dans la structuration des données, notamment autour de RDF, qui permettent d'aller un cran plus loin, notamment à tous les travaux qui ont été faits à la BNF sont très importants dans ce domaine, mais de manière générale au niveau international. Et puis vous avez des formats très très spécifiques. Ici, un format sur lequel je travaille dans le territoire Pleine Commune, puisque nous travaillons sur la modélisation du territoire à l'occasion des Jeux Olympiques et de la création du village olympique sur ce territoire. Vous avez un format qui est lié au BIM, au Building Information Modeling, qu'on appelle le CITIGML. Et là, vous êtes encore une fois sur un format, mais alors qui est très spécifique. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver comme format qui permettrait de recueillir l'interprétation et la contribution des participants et qui soit ni trop générique, ni trop spécifique. La plupart du temps, ça se résout par la plateforme ou par éventuellement la plateforme de données. qui va finalement permettre d'apporter cet élément d'interprétation, d'herméneutique, on pourrait dire aussi, par exemple DBpedia ou plus récemment Wikidata, qui sont des sites qui ont cette ambition de pouvoir faire contribuer les participants sur l'interprétation des datas qui ont été collectées. DBpedia, nous l'avons beaucoup utilisé au ministère de la Culture avec l'INRIA pour toutes sortes de projets qui utilisent la donnée. Voilà. Et puis, vous avez aussi la possibilité de relier l'interprétation et la participation à la page web. C'est l'ambition du projet W3C Web Annotation. Et c'est celui, d'ailleurs, que nous utilisons et que nous poursuivons pour essayer, au moins lorsque les données sont URLisées, si je puis dire, rajouter une encre qui permette d'apporter des éléments d'interprétation et de participation à cette URL. Alors, je termine en vous donnant quelques pointeurs. Vous avez ici des exemples de glossaires contributifs, de participation sous forme de carte mentale. La question de la qualité du tag ou de la qualité de la contribution est très importante. Elle peut se résoudre par des protocoles, là aussi, des protocoles de qualité de la donnée, comme ici sur le projet Iconolab qu'on avait mené avec le ministère de la Culture. Sur la documentation des œuvres, dans le champ de la recherche culturelle, il y a énormément de travaux, bien sûr, de musicologie. Je cite un des exemples de l'IRCAM auquel j'avais participé, mais vous avez le système Recall, le système Ligne de Temps. Il y a énormément de systèmes qui sont faits pour inciter à la participation des amateurs. Là, on peut dire vraiment les amateurs, parce qu'il y a une longue histoire de l'amateurat dans ces disciplines musicales et cinématographiques, par exemple. Tous ces outils ont vocation à être perfectionnés, à être renforcés en termes de catégorisation pour inclure la participation. Et je finis donc sur les enjeux économiques et politiques que j'ai soulevés en introduction, en vous présentant deux projets de la Seine-Saint-Denis sur laquelle donc nous intervenons ici dans le champ de l'agriculture urbaine et de l'alimentation, avec un artiste, donc Olivier Darnay, qui a beaucoup travaillé sur la pollinisation, la question des abeilles, et qui invite les habitants à apporter leur savoir dans un projet donc d'alimentation et d'agriculture urbaine qui s'appelle Zone Sensible. On retrouve là les inspirations d'un artiste qui, pour nous, est très important, qui est Joseph Beuys, sur la sculpture sociale, c'est-à-dire cette capacité à produire du sensible, de l'esthétique, de l'art, en ayant le souci toujours de cette action sociale, de production sociale, que vous trouvez aussi sur la petite photo où vous voyez les cloches de verre de la même ferme urbaine de Saint-Denis il y a 30 ans, où on a presque une œuvre d'art avec ce souci des plantes sous cloche. Et enfin, le dernier projet donc, sur lequel nous discutons d'ailleurs avec l'équipe de Romain Julliard, pour savoir comment est-ce qu'on peut constituer sur les questions de toxicité du numérique, qui sont particulièrement prégnantes sur la Seine-Saint-Denis, dans la PMI en tout cas avec laquelle nous travaillons, de savoir comment on va pouvoir constituer un projet de recherche participative où les mamans, puisque c'est principalement des mères de famille qui ont ces difficultés avec le portable, qui interfèrent finalement dans leur relation avec l'enfant, allant même jusqu'à provoquer vraiment des symptômes d'addiction, voire de quasi-autisme à certains âges, de pouvoir donc, à la manière des alcooliques anonymes décrits par Grégory Bateson, pouvoir constituer une base d'informations, de connaissances, de bonnes pratiques, permettant, vous voyez, donc, d'avoir à la fois une action sociale et une production scientifique sur ce type de sujet. Voilà, je m'arrête là. Je n'aurais pas eu le temps de vous présenter tout le déroulé sur l'économie de la contribution, mais je vous invite à lire le rapport que nous avons produit pour le groupe. Merci beaucoup.